Depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, l'accueil diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Le ministère indonésien des Affaires étrangères assure la sécurité des citoyens indonésiens après les attentats à la bombe via des téléavertisseurs. Les Néerlandais ont restitué des centaines d'objets culturels indonésiens en Indonésie. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative est prêt à promouvoir IKN et les destinations touristiques environnantes. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le ministère indonésien des Affaires étrangères assure que 152 citoyens indonésiens résidant au Liban sont en sécurité. Ceci est lié à des attentats à la bombe via des téléavertisseurs et des talkie-walkie. Le dernier s'est produit le 17 et 18 septembre 2024. Yuda Nugraha, lors d'une conversation avec RRI à Jakarta samedi 21 septembre, a déclaré qu'après l'incident, l'ambassade d'Indonésie à Beyrouth avait appelé les citoyens indonésiens à accroître leur vigilance. Les citoyens indonésiens doivent éviter les voyages considérés comme non essentiels. Yuda Nugraha a ajouté que les citoyens indonésiens sont également priés de suivre les instructions de l'ambassade indonésienne à Beyrouth pour quitter le Liban. Le gouvernement royal néerlandais a rapatrié dans le pays 288 objets de valeur culturelle indonésienne qui se trouvaient aux Pays-Bas depuis l'ère coloniale sur la base des recommandations du Comité des collections coloniales néerlandaises. Selon le ministre néerlandais de l'Éducation, de la Culture et des Sciences, Epo Bruin, selon un communiqué de presse écrit de l'ambassade des Pays-Bas à Jakarta vendredi, le rapatriement d'objets culturels sera le deuxième après le premier rapatriement d'objets culturels indonésiens et des objets culturels sri-lankais à mi-2023. La remise de 288 objets culturels a été effectuée vendredi, heure locale, au Wereld Museum Amsterdam, où les objets culturels sont stockés et exposés. Le directeur général de la culture du ministère de l'Éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie de la République d'Indonésie, M. Hilmar Farid, représentant le gouvernement indonésien. Également présent, le représentant du comité indonésien du rapatriement. Les objets culturels rapatriés comprenaient 284 objets historiques tels que des arpes, des pièces de monnaie et des bijoux liés au Puputan Badung qui ont été ramenés par les troupes coloniales néerlandaises après la conquête des royaumes de Badung et Tabanan. sur l'île de Bali en 1906. En dehors de cela, il y a aussi quatre statues hindous-bouddhistes. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative est prêt à promouvoir la capitale de l'archipel, ou IKN, et les destinations touristiques environnantes. Le directeur du marketing touristique régional 1 du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, M. Wisnu Sindhu Trisno à Jakarta vendredi, a déclaré que le ministère du Tourisme et de l'Économie créative commencera à promouvoir IKN en tant que nouvelle destination touristique au quatrième trimestre de cette année et au premier trimestre de 2025. Ces efforts promotionnels atteignent non seulement toutes les régions d'Indonésie, mais aussi à l'étranger. On sait que le grand public peut visiter IKN pour voir directement les progrès du développement de la nouvelle capitale indonésienne. Cette visite amènerait les visiteurs vers un certain nombre d'endroits intéressants dans la zone centrale du gouvernement central, y compris Plaza Cérémonie et le parc Kusuma Bangsa. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU exhorte Israël à cesser immédiatement de tuer et de blesser des enfants palestiniens à Gaza. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, dans son communiqué de presse rapporté par Anadolu vendredi, a déclaré que le comité était très préoccupé par le nombre élevé d'enfants à Gaza qui sont tués, déplacés, orphelins et victimes de l'enfant, malnutrition et maladie résultant d'attaques aveugles. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU exhorte également Israël à mettre immédiatement fin aux meurtres et aux blessures d'enfants palestiniens à Gaza, à garantir un accès humanitaire sûr et sans restriction vers et à l'intérieur de la bande de Gaza, en plus d'autoriser l'entrée de tous les matériaux de construction nécessaires aux familles palestiniennes pour reconstruire les maisons et les infrastructures civiles et publiques. L'Agence de surveillance des produits alimentaires et pharmaceutiques, ou BPOM, a déclaré qu'elle continue de s'efforcer de protéger les consommateurs et encourager la croissance des micro, petites et moyennes entreprises nationales, l'une d'entre elles étant de renforcer la surveillance des produits importés. Cette déclaration a été faite par le chef du BPOM, Taruna Ikrar, après avoir rencontré le ministre de coopératives et des petites et moyennes entreprises, M. Teten Masduki, au bureau du ministère coopératif et des petites et moyennes entreprises à Jakarta vendredi. Taruna Ikrar a déclaré son agence appliquerait des normes plus élevées aux produits importés, notamment aux produits alimentaires transformés, aux compléments de santé, aux cosmétiques et aux produits à base de plantes. Selon Taruna, en mettant en œuvre des normes élevées, BPOM espère empêcher l'entrée de produits dangereux pour la santé des consommateurs et en même temps protéger le marché indonésien de l'invasion de produits importés. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique « Les nouvelles de l'Indonésie ». Les premières nouvelles sont venues de la ville de Banjarmasin dans la province de Kalimantan du Sud. Le gouvernement de la ville de Banjarmasin dans le Kalimantan du Sud organise l'exposition du Réseau des villes du patrimoine indonésien ou JKPI 2024 à laquelle participeront des dizaines de districts et villes d'Indonésie. Le maire adjoint de Banjarmasin, H. Arifin Nur à Banjarmasin, a déclaré mercredi que cette activité avait réuni au moins 34 districts et villes membres du Réseau des villes du patrimoine indonésien ou JKPI. Expo JKPI 2024 est organisée sur les rives de la rivière Martapura à la tour d'observation de Jalan Pierre Tendean dans le centre de Banjarmasin du 18 au 22 septembre 2024. En exposant divers produits et marchandises typiques de la région et de sa culture. Selon Arifin Nur, l'exposition fait également partie du 6e congrès du Réseau des villes du patrimoine indonésien 2024. En tant que Villiers de 488 ans et faisant partie du forum des réseaux des villes du patrimoine en Irmésie, la ville de Banjarmasin possède un riche patrimoine culturel. Arifin a déclaré que la ville de Banjarmasin est prête à collaborer plus largement, y compris dans le cadre de réseaux internationaux. Les nouvelles suivantes sont venues de Bantul, Yogyakarta. La tradition ou le rituel Wiwitan comme l'expression de la gratitude des agriculteurs à Dieu pour la récolte abondante a eu lieu à Bulak Lampisan, le village de Bangunjiwo, la résidence de Bantul, Yogyakarta. Ce rituel est également le signe du début de la récolte locale du riz. Le régent de Bantul, M. Abdul Halim Musli, dans un communiqué après avoir assisté à la tradition Wiwitan à Bangunjiwo, Bantul, mercredi, a déclaré que la tradition Wiwitan était combinée avec des activités culturelles qui sont devenues une sagesse locale dans le sous-district en tant que forme de coopération mutuelle. Il a expliqué que le secteur agricole est l'une des priorités de développement dans la région de Bantul, parce que la majorité de la population locale est impliquée dans l'agriculture. Pendant ce temps, le chef de village de Bangunjiwo Parja a déclaré que Bangunjiwo est l'un des sous-districts portant le titre de village culturellement indépendant qui a la tradition Wiwitan, un rituel annuel, un geste d'expression de gratitude des agriculteurs envers Dieu pour les récoltes abondantes. Il a dit que la tradition Wiwitan a été mise en œuvre grâce à l'aide du Fonds spécial Yogyakarta en 2024. Malgré la longue saison sèche, la récolte du binan a atteint l'objectif environ 7,1 tonnes par hectare pour une superficie de 100 hectares. Ubinan est la zone de plantation généralement rectangulaire ou carrée pour faciliter les calculs de superficie. La dernière nouvelle vient de Padang dans l'ouest de Sumatra. Trois œuvres d'installation artistique de quatre artistes de l'ouest de Sumatra ont été exposées dans le hall des arrivées des passagers de l'avion à l'aéroport international de Minangkabau pour commémorer le 5e anniversaire de la désignation du patrimoine de la mine de charbon Ombilin Sawah Lunto comme patrimoine mondial. Le commissaire de l'exposition Mahatma Muhammad Apadang a déclaré mardi que l'exposition intitulée « Série d'installations artistiques pour commémorer le 5e anniversaire de la détermination du patrimoine de la mine de charbon d'Ombilin Sawah Lunto en tant que patrimoine mondial » se déroulera jusqu'en décembre 2024. Il a déclaré que l'exposition était également une série d'activités pour Galanggang Arang 2024, qui est un programme prioritaire de la Direction du développement et de l'utilisation culturelle, Direction générale de la culture, le ministère indonésien de l'éducation et de la culture pour renforcer l'écosystème WTBOS qui a été désigné par l'UNESCO comme patrimoine mondial le 6 juillet 2019. Les installations exposées incluent assiettes de Arifin Rahman de la communauté Rumah Adaseni, pohon hikayat ou arbre d'histoire de Romi Armon, fondatrice de Kato Lab Art, et manuscrit emas hitam ou manuscrit en or noir de l'artiste Nasrul Palapa, galeris 89 et Erlangga de la communauté artistique Belanak. À travers des approches décoloniales et ethnographiques, les trois installations placent les expériences et mémoires locales au centre du récit. Le récit contient une critique de la manière dont cet héritage est maintenant célébré, tandis que réalité amère de l'exploitation et l'oppression passée presque oubliée. Le WTBOS est peut-être reconnu dans le monde entier, mais cette reconnaissance n'efface pas les traces coloniales qu'il a laissées. Ainsi, cette installation constitue un rappel urgent des dangers d'oublier les souffrances qui ont façonné l'histoire de la société, en plus d'être un espoir de lutter pour un avenir meilleur. Chers amis, c'est la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie.
Tetaplah satu kita, kita Indonesia.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec l'événement le 21 septembre 1945, la prise de pouvoir à Yogyakarta. Le Japon s'est rendu aux Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale en août 1945. Après cela, le Japon a également renoncé à son contrôle sur l'Indonésie qu'il avait colonisé pendant de nombreuses années. À cette époque, le climat politique en Indonésie était très chaotique, divers groupes tentant de combler le vide de pouvoir laissé par le Japon. Selon Kompas.com, le 21 septembre 1945, la lutte pour le pouvoir a été commencée, marquée par l'abaissement du drapeau japonais et le lever du drapeau rouge et blanc sur le bâtiment Chokkan, Kantai, aujourd'hui le bâtiment Agung. Cet incident a provoqué la colère du gouvernement japonais, notamment avec le soutien de la police spéciale. Cette action a été suivie d'une grève des employés de Yogyakarta le 26 septembre 1945, notamment ceux qui travaillaient dans les agences gouvernementales et les entreprises sous contrôle japonais. Les Japonais ont été contraints de remettre tous les bureaux qu'ils occupaient aux Indonésiens. La Journée internationale de la paix est célébrée internationalement chaque 21 septembre. La Journée internationale de la paix a été instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies. Deux années plus tard, en 2001, l'Assemblée générale a soutenu à unanimité la désignation de cette journée comme période de non-violence et de cessez-le-feu. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré aujourd'hui une journée consacrée au renforcement des idées de paix en observant 24 heures de non-violence et en cessez-le-feu. La passe de indique que la Journée internationale de la paix constitue une date mondiale permettant à toute la Journée internationale de la paix l'humanité de s'engager en faveur de la paix au-dessus de toutes les différences et de contribuer à la construction d'une culture de la paix. La passe de la Journée internationale de la paix indique que la Journée internationale de la paix constitue une dette mondiale commune à toute l'humanité et s'engager pour la paix au-dessus de toutes les différences et contribuer à la construction d'une culture de la paix. Le 21 septembre 1999, un séisme de magnitude 7,3 secoua Shishi, la Chine. Le tremblement de terre de Shishi s'est produit le 21 septembre 1999 à Shishi, Nantou, en République de Chine. L'épicentre du séisme d'une magnitude de 7,3 était situé à l'altitude de 23,85 degrés et longitude de 120,82 degrés et à 9,2 km au sud-ouest du lac Sunmun. La profondeur de ce séisme était de 8,0 km. Ce tremblement de terre a tué 2416 personnes et plus de 11 000 personnes ont été blessées. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Pegang arah janji, beri kesempatan.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique Mon Indonésie, intitulée BNI Sydney peut contribuer à encourager le potentiel de PME de la diaspora. Martin Manurung, le membre de la commission 6 de la Chambre des représentants indonésiens, a estimé que la présence d'un bureau de représentation de PT Banque Negara Indonesia à Sydney, l'Australie, pourrait encourager le potentiel des petites et moyennes entreprises de la diaspora indonésienne en Australie. Citant le rapport d'Antara à Jakarta jeudi 19 septembre, Martin Manurung a déclaré que l'expansion de BNI en Australie était conforme au mandat du ministère des entreprises publiques ou BUMN qui encourage les entreprises publiques à atteindre la portée de leurs services à l'échelle mondiale. Il espère que BNI Sydney pourra jouer le rôle dans le soutien de la croissance économique et le renforcement des relations commerciales entre l'Indonésie et l'Australie. Auparavant, le président directeur de BNI, M. Boyke Tumilar, a expliqué qu'avec son statut de bureau de représentation, l'objectif principal de BNI Sydney est de mener des recherches liées à l'économie et aux affaires en Australie. De cette manière, BNI peut fournir des informations utiles sur le marché, introduire des investisseurs potentiels et fournir des solutions bancaires qui soutiennent les investissements directs dans des secteurs stratégiques. BNI Sydney peut également fonctionner comme un centre d'information pour les entrepreneurs indonésiens et australiens qui souhaitent explorer de nouvelles opportunités commerciales. En organisant des séminaires, des ateliers et des séances de réseautage, BNI peut rassembler des acteurs économiques des deux pays pour établir une coopération mutuellement bénéfique. En outre, BNI Sydney peut également collaborer avec des ambassades, consulats et d'autres organisations commerciales pour soutenir les initiatives gouvernementales visant à améliorer le commerce et les investissements bilatéraux. En dehors de cela, BNI Sydney devrait servir la liaison pour les entrepreneurs des deux pays qui souhaitent explorer de nouvelles opportunités commerciales. Pour réaliser cette question, BNI collaborera avec des ambassades, les consulats et diverses organisations commerciales pour soutenir les initiatives gouvernementales visant à accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. BNI possède déjà plusieurs autres bureaux à l'étranger dans divers pays, notamment à Singapour, Hong Kong, Tokyo, Séoul, Londres, Amsterdam et New York. Selon Boyke Tumilar, avec ce réseau mondial, BNI s'engage à continuer de soutenir la croissance économique et renforcer les relations commerciales entre l'Indonésie et le monde international. Chers amis, c'est la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Melangkah ke Dubai. La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le village de Sajuta Batu à Purwakarta, Jawa West. Le village de Pasir Kole est situé dans le village de Kutamana, le district de Purwakarta. Ici se trouve une attraction touristique surnommée le village Sajuta Batu qui offre une vue imprenable. Cette vue est encore plus parfaite avec une toile de fond majestueuse de Mont Parang et immensité du lac Jatiluhur. Cet endroit offre non seulement des vues agréables à l'œil mais aussi une atmosphère calme et paisible. Ce village surnommé Village Sajuta Batu est unique parce qu'il est décoré de pierres naturelles de différentes tailles. Le grand nombre de gros rochers disséminés dans différents coins du village de Pasir Kole lui a également valu le surnom de Batu Park ou le parc de Batu. L'étendue de rizières et d'herbes vertes est très harmonieuse avec les rochers existants. Avec de belles vues et une atmosphère naturelle épaissante, cette attraction touristique est l'une des attractions touristiques à visiter absolument lors de la visite de l'Ouest de Java, notamment du district de Purwakarta. Ici, les visiteurs peuvent également assister au charme du lever et du coucher du soleil exotique. Dans ce lieu touristique, les visiteurs peuvent faire diverses activités comme se détendre ou bien se promener tout en profitant de l'atmosphère calme et pleine de beauté. Pour se rendre à l'attraction touristique du village de Sajuta Batu, les visiteurs peuvent prendre les transports publics ou privés. Si vous souhaitez essayer les transports en commun, vous pouvez prendre le train depuis Jakarta ou Bandung jusqu'à la gare de Purwakarta et continuer en transport en commun ou bien en taxi jusqu'au village de Sajuta Batu. En arrivant au village de Sajuta Batu, vous serez bien sûr accueilli par la vue de millions d'imposants rosiers en décide. Chers amis, c'était magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous en Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Kebumen devient l'hôte du 6e ZioFest. La résidence de Kebumen dans le centre de Java accueillera le 6e festival et conférence internationale sur Géotourisme ou ZioFest en 2025. Le directeur général du Géoparc de Kebumen, M. Sigit Tri Prabowo, a déclaré que le choix de Kebumen comme lotte était le résultat du 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique à Chaubang, Vietnam, du 8 au 15 septembre 2024. Sigit a déclaré que le géoparc Kebumen avait conclu un accord avec le géoparc Langkawi Malaysia et le géoparc Ciletuh Java West pour organiser le festival et la conférence internationale de géotourisme au 6e Géofest en 2025. Le Géofest est un événement qui combine le tourisme et les activités scientifiques pour faire progresser le géotourisme. Lors du 6e Géofest, il y aura une exposition de géotourisme, un symposium scientifique et des activités sur le terrain dans la région du Géoparc de Kebumen. Cet événement international est divisé en trois étapes. Le pré-événement aura lieu au Géoparc Ciletuh Java West, l'événement principal au Géoparc Kebumen et le post-événement au Géoparc Langkawi, la Malaisie. Participants ciblés de l'Asie Pacifique, 300 personnes hors visiteurs et partenaires du Géoparc. Sigit a ajouté que des activités de collaboration comme celle-ci renforceront la position du Géoparc de Kebumen qui a reçu des recommandations en tant que géoparc mondial. Géofest devrait apporter le potentiel touristique de Kebumen et de plus en plus connu dans le monde. Il est prévu que l'activité principale du 6e Géofest dans la région de Kebumen se tiendra fin mai 2025. Cette activité comprendra une exposition à laquelle participeront des MPME ou micro, petites et moyennes entreprises locales, des acteurs du tourisme et des partenaires du géoparc de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Un colloque sera également organisé auquel participeront des chercheurs et des universitaires. On espère que cette activité pourra encourager les progrès du géotourisme dans le géoparc de Kebumen et accroître la coopération entre les géoparcs pour créer un géoparc sain et impactant. Le 8 septembre 2024, le Conseil du géoparc mondial UNESCO a décidé d'accepter le géoparc de Kebumen comme géoparc mondial. Ce résultat sera soumis au directeur pour une détermination qui devrait être effectué en avril 2025. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilang lalu kah, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikkanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan Bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilang lalu kau, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons la chanson de Keroncong intitulée « Kamu pemain, aku pelatih » chantée par Avolia, accompagnée de Five In. Cette chanson sortie le 22 novembre 2023 est une chanson popularisée par la chanteuse Avolia. Cette chanson a été créée par Avolia elle-même, aidée par Pramudito et Jaisa Siang. Cette chanson raconte d'une femme qui n'est pas facilement jouée par les hommes. Comme le titre, la femme connaît déjà les mouvements des hommes qui n'ont que de mauvaises intentions. Cette chanson parle essentiellement de femmes qui ne se laissent pas facilement tromper par les hommes qui vont et viennent à leur guise et qui aiment trahir. Bon, chers auditeurs, voici Avolia avec Five In intitulé « Kamu pemain, aku pelatih ». Bonne écoute!
Tak kau sebut bisa permainkanku. Aku sudah tahu mau denganmu. Cepat-cepatlah kau pergi dan jangan kembali. Jangan pikir kau bisa permainkanku.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.